Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Tout est politique, le carnet de bord de la bataille culturelle sur Radio Courtoisie. Nous sommes ensemble de midi à 13h30 pour une émission consacrée à l'euthanasie. Tic-tac, tic-tac, nous sommes à J-8 jours avant le vote d'une loi mortifère. Oui, à cette heure, nos chers parlementaires discutent de la proposition de loi sur, je cite, « le droit à l'aide à mourir ». Et la possibilité pour le malade de, je cite encore, se faire administrer par un médecin une substance létale. La réalité est si terrifiante que le rapporteur même n'ose la désigner et écarte d'un revers de main le mot euthanasie, évidemment. La sémantique minutieusement choisie embellit le projet sociétal. Progrès, droit, aide, souffrance, demande du malade. Voilà les termes mis en avant pour faire avaler la pilule amère, mortelle même. C'est l'esthétisation de l'euthanasie. Et pour leur défense, les pro-euthanasie brandissent le droit à, les droits créances ou le droit d'exiger la satisfaction d'une volonté. J'ai le droit de mourir. Donc le législateur invoque le droit à l'aide à mourir. Très bien. Je vous administre le cacheton létal. En deux mots, l'autorité médicale moralise un acte indigne. L'autorité légale légalise un acte répréhensible. Et la société répond à une volonté légitime du patient. À une vie si indigne, une mort digne. Et ce, grâce à nous. Et la boucle est bouclée. Comment reprocher notre conduite si empathique, clame-t-il. Pourtant, tous les maux du monde ne suffiront pas à humaniser un meurtre. Car l'acte est ce qu'il est. Donner la mort. Je répète, donner la mort. La mise à mort est donc anticipée, programmée, planifiée, séquencée, exécutée dans les moindres détails. Elle en sera d'autant plus humaine et digne. Un basculement anthropologique s'opère, les tabous sautent, le plus faible devient négligeable, la vie relative, la dignité subjective, l'interdit moral de tuer, discutable. Nous rentrons dans l'ère du business de la mort, l'extermination des inutiles et des vies indignes. En Prométhée, l'homme se prend pour Dieu, il le défie en lui volant sa création. Il s'accapare déjà la naissance de la vie en supprimant les embryons dérangeants. À présent, il prend la main sur la fin de vie en donnant la mort. Ce texte met un pied devant la porte. Qu'adviendra-t-il ensuite? Les conditions d'accès à la sortie funèbre ne seront-elles pas élargies? À quels heureux et nouveaux élus seront gentiment administrés l'injection émancipatrice? Aux diabétiques? Après tout, c'est grave, incurable et engage le pronostic vital également. Aux personnes handicapées? Aux personnes atteintes d'Alzheimer? Aux nouveau-nés prématurés? Aux dépressifs, pourquoi pas? La main sur le cœur, jamais, au grand jamais, nous élargirons les conditions, nous diront-ils. Croix de bois, croix de fer, si je meurs, je vais en enfer. Pourtant, nous craignons le pire. Nous sommes en effet échaudés avec l'extension sans limite de l'IVG et du PACS. Eh bien, prions pour qu'il n'aille pas en enfer. L'euthanasie parachève le règne d'une société transhumaniste, totalitaire, déjà ordonnancée par l'avortement, les puces et la manipulation génétique. Il est temps de nous lever et de dire non. Il est temps de combattre l'inhumanité au nom du plus faible, au nom de la dignité de l'homme, tout simplement. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir Madame Lucie Pachery. Bonjour Madame, bonjour Lucie, merci d'être là avec nous.
Bonjour Thomas.
Vous êtes responsable plaidoyer France à la Fondation Jérôme Lejeune. Vous suivez depuis 15 ans les lois à fort enjeu bioéthique et notamment donc l'euthanasie. Et j'ai l'honneur de recevoir Mathieu Nolly. Bonjour Mathieu, merci d'être là. Vous êtes journaliste, écrivain, chroniqueur. Vous avez écrit un livre que je montre à l'antenne, Chronique euthanasique aux éditions Salvator. Alors d'abord, deux sons avant de commencer l'émission.
Le mot euthanasie, effectivement, a été utilisé sous le Troisième Reich par Adolf Hitler. Et quand Adolf Hitler parlait d'euthanasie, c'était pour éliminer des milliers et des milliers de personnes handicapées. Quant au mot euthanasie, vous êtes sans doute nostalgique de son étymologie grecque qui signifie « belle mort ». Mais vous savez, monsieur Hetzel, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il y a des mots, des beaux mots, qui sont parfois souillés par l'histoire. Il y a des mots qui sont souillés par l'histoire, monsieur Hetzel. Le mot euthanasie, effectivement, a été utilisé sous le Troisième Reich par Adolf Hitler. Et quand Adolf Hitler parlait d'euthanasie, c'était pour éliminer des milliers et des milliers de personnes handicapées. J'ose imaginer que personne dans cet hémicycle imagine que l'euthanasie, c'est faire référence au crime de masse préfigurateur de la Shoah. Le mot euthanasie fait référence à un passé qui peut blesser. Et c'est ce que j'ai retenu de mon entretien en 2021 avec Robert Badinter.
La demande de mourir, la demande d'euthanasie, c'est juste pas possible de le faire dans un établissement. C'est pas un droit particulier qui s'appliquerait à quelqu'un, ça implique toute une maison. Chez nous, on s'appelle ma maison, d'accord ? Quand on rentre à ma maison, c'est généralement, même si ça peut être plus court, mais pour plusieurs mois, voire pour plusieurs années. Il s'instaure un climat de confiance, un climat d'accompagnement, un climat d'amour, de tendresse, hein, où les résidents...
On est en famille, en quelque sorte.
Où les résidents, même entre eux, s'entraident, où les collaborateurs participent et se mettent en quatre pour aider quelqu'un à trouver sa place, à trouver... Ils rendent le personnage heureux, c'est notre grand mot chez les petites sœurs, mais c'est vraiment une réalité. Et comment vous voulez que, à un moment, parce qu'il y a quelque chose de difficile qui arrive, et ça arrive, hein, une fois de plus, c'est des choses qui arrivent. Mais la solution n'est pas de dire, vous inquiétez pas, on a une solution. Non, on continue à se mettre en quatre pour trouver une solution. Nos gestes de soignants, au sens très large du terme, ne peuvent pas être des gestes porteurs de mort, c'est des gestes porteurs de vie, c'est évident. C'est vraiment évident. Et faire rentrer ce type de pratique dans un établissement, c'est casser l'établissement. On dit les murs n'ont pas de conscience, mais la vie, la maison, ma maison, c'est plus ma maison si je fais un jour rentrer la mort comme ça, cette pratique de la mort dans la maison.
Alors, nous avons entendu deux sons. Le premier, c'était Olivier Falorni qui, naturellement, défendait l'euthanasie. Alors, ce qui l'ennuie beaucoup, c'est effectivement, il y a un rappel historique. Donc on supprime le signifiant pour supprimer le signifié, on va dire. Donc le mot euthanasie gêne beaucoup. Et le deuxième, c'était la sœur Agnès du Bon Pasteur, qui évidemment a le point de vue inverse et qui rappelait à quel point la dignité humaine est importante. Alors Lucie, merci encore d'être là.
Merci.
J'ai une première question que beaucoup de gens se posent à propos de l'euthanasie, parce que moi je vais dire le mot euthanasie, parce que c'est ce dont on parle. En préparant cette émission, beaucoup de gens m'ont parlé de ce que craignent beaucoup de personnes dans la vie, c'est la souffrance. Alors, on parle plus de souffrance physique que de souffrance psychologique, mais en tout état de cause, et c'est humain, nous avons peur de mourir en souffrant. Qu'en est-il aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, de l'élimination, du fait de l'élimination de la souffrance, du fait d'abréger les souffrances pour que la personne puisse vivre en paix en termes corporels.
De fait, c'est un des arguments qui a été avancé par les promoteurs de cette loi qui vise à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, donc l'administration d'un produit létal, soit par le médecin ou l'infirmier, soit par la personne elle-même. Enfin, c'est d'abord soit par la personne elle-même, puisque c'est le principe du CST, soit par un médecin ou une infirmière si elle n'est pas en mesure de le faire. Et donc, cette question de la souffrance a été un petit peu instrumentalisée au début du débat. Mais c'est assez étonnant, puisque cette loi qui est arrivée dès 2022, cette proposition de loi arrive en réalité dans un moment où en France, et peut-être même dans le monde, on a les soins palliatifs, on a une médecine palliative, une médecine de gestion de la douleur qui est la plus performante depuis toujours. Et où la connaissance de la douleur et l'écoute du patient pour essayer de la soulager est la plus performante, encore une fois. En revanche, donc la souffrance physique, en réalité, et même dans les débats, n'est plus une question. Au fur et à mesure des lectures, on a bien vu que la question de la souffrance physique, en tout cas, n'était absolument plus une question, puisqu'elle était en réalité bien gérée par nos médecins aujourd'hui, si tant est que les patients ait accès à ces soins palliatifs ou en tout cas à des médecins qui soient qualifiés et qui soient compétents en termes de gestion de la douleur.
Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'on techniquement on sait faire.
techniquement, on
mais
sait faire aujourd'hui.
Mais encore faut-il avoir accès aux soins, aux établissements qui le font.
Exactement. D'accord. Ce qui est un autre sujet.
Ce qui est un autre sujet, absolument.
En revanche, la question de la souffrance psychique, la souffrance psychologique, est une question auquel les promoteurs de la loi répondent par cette administration de la substance létale, parce qu'en réalité, ils cherchent à apaiser, entre guillemets, l'inquiétude, la résistance face à la décrépitude par la mort. Voilà. Et en effet, nous sommes une génération, nous sommes une société où la décrépitude, la dépendance est un vrai problème pour nous. Nous sommes en rejet de cette situation et on peut le comprendre d'une certaine façon. Mais donc, c'est peut-être la souffrance psychique.
Alors, justement,
psychologique qui est un sujet.
Absolument. Alors moi, j'écoutais en préparant cette émission des personnes qui accompagnent et qui sont avec les personnes qui sont en fin de vie, et qui, je vais vous donner la parole, Mathieu, et qui disent, au moment où on est malade, au moment où on souffre psychologiquement, on a tous eu envie, une fois, de mourir. Et puis après, ça passe. Et c'est ce que cette personne disait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à votre livre, parce que dans votre livre, à un moment donné, vous en parlez. Alors Mathieu, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que dit Lucie ?
Ah, j'aime beaucoup rebondir. C'est quelque chose que je fais assez souvent de rebondir, d'ailleurs, donc avec grand plaisir. Moi, je vous parlerai d'une expérience personnelle à ce sujet. Ma mère, est morte en 2006 à Jeanne Garnier. Elle est morte en 2006 au bout de 18-19 ans de tumeur osseuse, un carcinome osseux, qui la fait souffrir terriblement pendant donc, toutes ces années. Et du jour où elle est entrée à Jeanne Garnier, donc pendant tous ces 18 ans, on tout ferait avec elle, on compatissait littéralement à ses douleurs, du jour où elle est entrée à Jeanne Garnier, c'était en 2006, je le rappelle, elle n'a plus eu mal. Il s'avère que dans le prolongement de mon engagement sur la fin de vie, je suis devenu bénévole à Jeanne Garnier, ce qui me procure des joies ineffables. À Jeanne Garnier, on assiste au rayon de transmission, et je constate l'extraordinaire bienveillance, la magnifique délicatesse des soignants qui disent « tel patient est douloureux ». Et or, il s'avère que ce que vous dites est vrai. Les gens ne souffrent pas en soins palliatifs. C'est-à-dire que la souffrance est prise en charge. Et combien de fois j'entends des patients, des proches, qui disent « mon mari, mon épouse était à tel hôpital », sans dire du mal d'aucun hôpital, naturellement, c'est pas mon propos. Mais « ah, depuis qu'il est à Jeanne Garnier, il ne souffre plus ». Et donc cette souffrance physique, les médicaments, dorénavant, parviennent à être traités. Et j'ajoute que même la souffrance, l'angoisse psychologique, peut être également prise en charge. Quand il y a ce qu'on appelle le soin palliatif. Palliatif vient de pallium, c'est ce manteau dont était recouvert les soldats romains, et c'est un manteau de délicatesse et d'amour dont on recouvre les patients à Jeanne Garnier. Donc voilà, c'est concrètement dans les faits, dans la réalité des faits, cette souffrance peut être prise en charge. Et puis un dernier petit mot, puisque vous parliez de mots tout à l'heure. Moi, le livre, mes chroniques euthanasiques, j'ai commencé à les écrire quand le projet de loi est sorti, a fuité dans la presse. Et à l'époque, c'était encore plus drôle, il parlait de secourisme à l'envers. C'est du genre, t'es en train de te noyer, on te balance une bouée, puis on la renvoie après, on la récupère. Donc c'était vraiment chouette. Il joue sur les mots. Mais voilà, et il joue tellement sur les mots que, et je termine là pour ne pas faire un long exposé, mais il joue tellement sur les mots que les sondages eux-mêmes étaient biaisés en disant... Parce que ce sont les sondages qui ont été commandés ces dernières années. Que préférez-vous ? Préférez-vous souffrir pendant 25 ans en étant alité et compagnie dans vos besoins, sécrétions et compagnie, ou bien une petite pigouze et c'est réglé ? Évidemment, quand on pose la question comme ça...
C'est ce que j'appelle les alternatives enfermantes. C'est-à-dire qu'on sait à l'avance quelle réponse vous allez donner, parce qu'on vous la pose de telle manière qu'elle est de mauvaise foi. Bon.
Exactement.
Alors, si je reprends, nous sommes à J-8.
Tout à fait.
C'est ça, Lucie.
Oui.
J-8. Je lis... Le paragraphe qui concerne, à mon avis, le cœur du sujet, vous m'arrêtez si ça a été modifié, parce que comme vous êtes encore plus experte que moi, être alors, les conditions pour bénéficier, même ce mot-là, en fait, ça m'arrache de le dire, pour bénéficier de l'euthanasie, être atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible, marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade, qui affecte sa qualité de vie ou en phase terminale. Est-ce que, Lucie, c'est bien ce paragraphe-là qui est toujours en d'actualité, qui est toujours dans le texte ?
Tout à fait. Vous venez
c'est
de lire le troisième critère d'accès à l'aide à mourir.
Donc,
voilà, il y a quatre critères d'accès.
Dans le cœur du sujet, là.
Oui, nous sommes dans le cœur du sujet.
Alors, est-ce que justement, vous pouvez, puisqu'on a, entre guillemets, abordé le sujet de la souffrance, qui est quand même un sujet lourd, Comment vous interprétez ces trois phrases pour nos auditeurs?
Ce troisième critère, il se résume en une phrase, et ça avait été très bien dit au début dans les débats. Ils ont justifié cette proposition de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, d'ailleurs avec la bénédiction du CCNE en 2022, en disant que en France, on était bien accompagné lorsque le pronostic vital était engagé à court terme, puisque les lois précédentes ont fait en sorte qu'il existe un droit du malade à bénéficier notamment de la sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque la mort était imminente, donc lorsque le pronostic vital était engagé à court terme. Donc en réalité, pour les malades souffrants qui sont en toute fin de vie, la loi française encadrait déjà et donnait déjà des réponses, voilà, dont, qu'on peut discuter d'ailleurs, qu'on pourrait discuter.
Donc la loi précédente.
La loi précédente.
La loi Leonetti, par exemple,
mais bon, qui est un peu discutable, mais voilà, la loi Leonetti de 2005 avant, et de toute façon, la loi depuis 1999, la loi relative aux soins palliatifs, donnait toutes les clés aux professionnels de soins palliatifs pour bien accompagner les patients. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Mais donc, ce que les promoteurs de ce texte souhaitaient, c'était que les malades puissent bénéficier d'un protocole médical à partir du moment où leur pronostic vital était engagé à moyen terme. Or, le moyen terme avait été défini par le Comité consultatif national d'éthique entre 6 mois et 1 an. Voilà. Donc, c'était déjà donner la possibilité à des malades de se projeter très en amont. Et de décider s'ils ne souhaitaient pas assister à leur propre décrépitude ou à leur propre dépendance, eh bien, prendre la solution de l'acte létal. Et aujourd'hui, on parle plus trop, ce ne sont plus les termes employés, pronostic vital engagé à moyen terme, on parle d'un pronostic vital en phase avancée, donc c'est presque... C'est tout autant flou, c'est très subjectif, c'est très interprétable. C'est peut-être ce qui est le plus inquiétant dans les conditions d'accès, c'est que tous ces critères sont très interprétables et que aussi ce que vous venez de lire intègre la question du fait que la personne malade considère que sa qualité de vie est affectée. Voilà, que la maladie ou que son état affecte sa qualité de vie, qui est aussi un critère extrêmement vague et extrêmement subjectif et interprétatif. À quel moment on considère qu'un malade a sa qualité de vie qui est affectée, voilà.
Mais là, par exemple, pour rebondir sur mon édito, quelqu'un qui a le diabète, il rentre dans ces conditions
Oui, tout à fait, tout à fait. De quelqu'un qui a le diabète pourrait dire qu'il rentre dans ces conditions et brandir la carte du droit à mourir. Puisque c'est vraiment ça dont il s'agit. Cette proposition de loi, elle n'est pas une réponse à la souffrance, elle n'est pas elle ne permet pas une meilleure prise en charge médicale, elle n'est rien de tout ça. Les promoteurs le disent eux-mêmes dans les débats, dans l'hémicycle. Cette proposition de loi consiste à créer un droit de choisir sa mort. Voilà. J'ai le droit de choisir ma mort, puisque j'ai le droit de choisir ma vie, de manière générale, eh bien je dois avoir le droit de choisir ma mort, les conditions de ma mort et le moment de ma mort.
Donc c'est un saut anthropologique pour vous?
C'est un saut anthropologique, une rupture anthropologique.
Donc, l'homme se prend pour Dieu?
L'homme dispose de lui-même. L'homme pense qu'il peut disposer de lui-même dans une société en dehors de tout collectif. Voilà. Il pense qu'il peut se disposer de lui-même, se saisir de lui-même sans qu'il y ait d'impact. Enfin, et il nous laisse penser qu'il n'y a pas d'impact sur le collectif.
Oui, donc, oui. Voilà. Absolument. En plus, c'est totalitaire.
C'est totalitaire
puisque les faibles sont pris en main par les forts.
Tout à fait. Oui, tout à fait.
Et donc, pour nos auditeurs, donc, je suis aujourd'hui avec Lucie Lapacherie et avec Mathieu Nolli qui a écrit un livre qui s'appelle Chronique euthanasique, puisque nous sommes en train de faire une émission sur l'euthanasie 8 jours avant le vote de la loi sur l'euthanasie. Alors justement, Chronique euthanasique, Mathieu, vous avez écrit effectivement des petits contes ou des petites histoires, on peut l'appeler ça des chroniques, pour essayer de montrer en quoi c'était un sujet grave, profond, et qu'il fallait s'y intéresser. Alors déjà, est-ce que c'est un lien avec la proposition de loi ou pas du tout? C'est décorrélé, enfin, ce que je veux dire, le contexte.
C'est complètement lié au projet de loi.
D'accord. C'est-à-dire que... Vous l'avez écrit en raison de ce projet de loi.
Je l'ai écrit en raison de ce projet de loi, Je l'ai écrit pour quelle raison ? Parce que, tout simplement, je constate à l'époque, le livre est sorti en 2024, en mai 2024, avant la facétieuse dissolution de Macron qui a repoussé le projet de 2 ans. Mais j'écris ce livre parce que j'avais constaté une chose assez simple, c'est que les responsables religieux, de toute confession, j'entends, catholiques, musulmans, protestants, juifs, ont tous manifesté leur opposition à cette loi. Mmh. Et tous, sensiblement, pour les mêmes raisons, de protection de la vie, ce qui est tout à fait légitime. Mmh. Ils ont été reçus poliment à l'Élysée, dans les instances. Ils ont été conduits poliment. Mmh. Les médecins ont été 900 000, alors on peut gloser sur les chiffres, mais en tout cas, une bonne proportion de médecins, de nombreux médecins, de très nombreux médecins, et pratiquement tous les médecins en soins palliatifs et tous ceux qui sont concernés directement par le sujet, ont dit combien ils s'opposaient à ce projet, combien c'était quelque chose qui trahissait le serment d'Hippocrate, étant entendu, comme il est dit, comme ça a été dit et répété, que donner la mort n'est pas un soin. Mmh. Ils ont été reçus poliment, ils ont été conduits poliment. Mmh. Les experts, notamment Erwan Lemoredec, qui a écrit un magnifique livre, Fin de vie en République, et puis d'autres encore, bien sûr, Tullio David, etc. Bien d'autres auteurs ont publié des livres remarquables en exposant avec justesse, précision et brio les raisons pour lesquelles il fallait s'opposer à cette loi. Ces livres ont été reçus poliment et rangés poliment à sa bibliothèque. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, tant qu'à faire, moi qui suis romancier, parce que c'est mon rôle, voilà, pourquoi ne pas prendre position moi aussi, et pourquoi ne pas s'amuser un peu. Et donc c'est pour ça que j'écris ces 12 petites chroniques un peu piquantes, hein, qui racontent 12 petites situations qui ont l'avantage, le livre en fait est sorti en 2024, mais il est plus actuel que jamais, puisque c'était à l'époque un roman d'anticipation, maintenant c'est un roman d'aujourd'hui. C'est pas un roman de gare, hein, pas loin, mais voilà, c'est un roman d'aujourd'hui où je raconte ce qui va se passer demain. J'entends par là, donc dans des chroniques, il y a un médecin qui tombe amoureux de sa patiente. Alors comment est-ce qu'il va faire ? Il veut la piquer, mais en même temps il l'aime bien et tout et tout. Il y a plein d'histoires rigolotes où j'imagine plein de petites situations. Je vous laisserai les découvrir, bien sûr. Il y a des gens qui vont se faire euthanasier ensemble, et puis il y a les maisons de retraite qui sont vides parce que, comme tout le monde se fait piquer, ben, il n'y a plus personne, il n'y a plus de place, donc ils sont très embêtés de peur des choses à faire. Ben, tout ça est assez sinistre, mais drôle. Hein.
Ce que je trouve intéressant, Mathieu, c'est que vous mettez en avant des causes pour euthanasier qui ne représentent pas la cause première qui est avancée dans le projet de loi, la cause première qui est de dire finalement, je réponds à une demande du patient qui n'a plus envie de vivre, donc je lui facilite la tâche et je le pique. Bon, en deux mots, pour aller vite, c'est leur argument. Mmh. Bon. Sauf que tout le monde connaît la phrase qui veut tuer son chien l'accuse de la rage, etc., mmh. etc. Moi, je rappelle quand même, et vous en parlez très bien, Mathieu, que ce que je veux dire est morbide, mais la raison financière rentre en jeu à un moment donné.
Ah, mais évidemment.
C'est-à-dire que moi, je reprends simplement, puisque monsieur Vagorny en parlait tout à l'heure dans le son que j'ai donné, il voulait absolument pas qu'on fasse référence au Troisième Reich, mais l'affiche de 1938, c'est 60 000 euros, c'est ce que la vie de cette personne souffrant d'un défaut héréditaire coûte au peuple. Chers concitoyens, c'est aussi votre argent. Bon. Vous-même, Mathieu, dans une de vos chroniques, vous parlez, la chronique numéro 6, vous voyez, je les ai bien lues et annotées, hein, vous parlez des coûts provoqués par la fin de vie, la médecine, l'accompagnement, provoquant un glissement, à savoir l'élargissement des cibles à euthanasier. Donc, on voit très bien qu'en fait, au début, on est sur une cause substantielle pour pouvoir euthanasier, et puis après, l'homme est ce qu'il est, on se dit, ah oui, mais alors ça peut permettre de faire ça, ben, la cause substantielle, on pourra l'avancer. Donc, c'est plus la cause substantielle, c'est une cause cachée qui permet de provoquer l'euthanasie. Voilà. Et donc là, ça devient en fait extrêmement morbide. N'est-ce pas, Lucie ?
Oui, tout à fait. Alors moi, je ne voudrais pas prêter d'intention en fait, à ceux qui portent ce texte, mais c'est un fait, en fait. À partir du moment, si la France légalise l'euthanasie et le suicide assisté, eh bien, toutes les personnes qui passeront par ce protocole seront autant de personnes qu'on n'aura plus besoin de prendre en charge. Mmh. Donc, de manière très simpliste, très factuelle, évidemment que les enjeux économiques seront présents après la légalisation de cet acte.
Et surtout quand on voit le coût des maisons de retraite, la situation de la France aujourd'hui, en fait, on se dit, la pente est facile.
La pente est facile. Mmh. Et oui.
Et bien sûr, mais ça se joue à deux niveaux, en fait. Il y a un premier niveau, et les mutuelles ont pris position en faveur de la loi, puisqu'ils considèrent que le coût de vie d'un patient dans les 6 derniers mois de son existence est pratiquement égal ou supérieur à celui qu'il coûte tout au long de sa vie avant. Donc les derniers mois coûtent très cher. Donc il faut économiser. Il y a des calculs d'apothicaire derrière tout ça. Donc ça, c'est du point de vue global. Et puis d'un point de vue plus personnel, plus particulier, pas mon cas, mais plus particulier, plus personnel, et c'est là où la loi, à mon sens, est assez choquante, c'est que les gens qui ont des moyens, qui ont de l'argent, et c'est la première chronique euthanasique dont je vous parle, publiée au Figaro Magazine en 2023, en juillet 2023. Et je remercie le Figmag de m'avoir mis le pied à l'étrier à ce sujet. En fait, cette première chronique, je raconte quoi ? Ben, je raconte le fait que quelqu'un qui est bien portant, quelqu'un qui est aisé, quelqu'un qui est entouré, il aura les moyens de se faire soigner, il aura les moyens d'être maintenu en EHPAD ou dans des bonnes conditions et compagnie. On pourra bien l'entourer, on pourra trouver un centre de soins palliatifs où il sera traité, ça coûtera un petit peu d'argent, mais on s'en occupera bien. Mais quelqu'un qui, comme Germaine dans ma première histoire, ben, qui voilà, elle a pas beaucoup d'argent, elle a un petit deux pièces à Clamart, elle a un fils au chômage, une fille soignante et compagnie. Bon, ça coûte très cher tout ça. Écoute, mamie, t'es gentille, mais là, quand même, que nous coûte cher. Et donc, il y a des enjeux d'apothicaire là-dedans, il y a des enjeux très humains. Et je porte aucun jugement là-dessus. Mais c'est juste cette porte qui est ouverte à travers cette loi. En fait, les promoteurs de la loi disent on n'obligera personne à le faire. C'est vrai? Personne ne sera obligé de le faire, mais tout le monde sera obligé d'envisager. Et c'est là où c'est criminel.
Oui, aussi. Tout à fait. Tout à fait. Je trouve qu'il y a quelque chose d'impensé dans cette loi. Il y a un impensé collectif qui se dégage. Et en effet, si la loi n'oblige pas les uns et les autres à demander l'administration de la substance létale, eh bien, il y aura certaines personnes vont se sentir obligées d'elles-mêmes. Voilà, vont se sentir obligées de passer par ce protocole ou de demander parce que elles n'auront pas les moyens de se payer un EHPAD ou d'être pris en charge comme il le faut, ou parce qu'elles ne voudront pas être portées, enfin peser sur leur famille. Et je voulais juste rebondir sur ce que vous dites, Mathieu, parce que on a fait un tour de France au début de ce débat pour montrer un documentaire qui s'appelle Mourir n'est pas tuer, qui est en ligne là, sur internet depuis un an maintenant, qui a été fait par Bernard de la Villardière. Et on a rencontré beaucoup de personnes. C'était vraiment au début du débat, on a ouvert le sujet et on a réussi à faire plus de 150 débats en province. Et je me souviendrai de plusieurs personnes, et notamment une femme qui m'avait dit à la fin, qui m'avait dit, mais ce que vous dites, c'est bien, je suis d'accord que qu'il y ait une loi comme ça sur l'euthanasie, le suicide assisté, ça pose des questions, mais moi, vous voyez, je suis seule. J'ai pas beaucoup d'amis, j'ai pas de voisins, j'ai pas de lien social, et j'ai pas de moyens. Donc quand je pourrai plus me déplacer toute seule, quand je pourrai plus aller faire mes courses, qu'est-ce que je vais faire ? Ça m'avait marqué. Parce que c'était un peu un cri de détresse, en fait. Cette femme, elle était venue par intérêt parce qu'elle se posait des questions. Et quand elle en est ressortie, elle s'est dit, de toute façon, moi, je pourrais pas faire autrement, d'une certaine façon. Je suis pas d'accord avec le principe. Je trouve que philosophiquement ou voilà, sur le fond, c'est peut-être pas très bien, mais moi, j'aurais pas le choix.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'euthanasie donne un saut légal à une possibilité matérielle qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire que, en fait, quelqu'un qui ne pouvait pas être aidé, qui n'avait pas les moyens financiers, etc., etc., l'euthanasie lui permet d'avoir une autre solution. C'est ça que vous voulez dire ?
En tout cas, oui, exactement. Cette loi lui permettrait de trouver une solution.
Une solution.
La solution apportée par la société, par les pouvoirs publics, à la désespérance sociale, à la solitude, à la détresse des gens, c'est dégage, en fait. Et c'est glaçant.
Moi, je me pose une question, je n'ai pas de réponse, c'est la question de la conscience. C'est-à-dire que, pour expliquer à mes enfants ce que c'est que la conscience, je leur parle souvent de l'image de Milou dans Tintin au Tibet, quand il doit rapporter le message et qu'il rencontre un os, et il ne sait pas s'il va emporter le message au détriment de l'os, ou s'il lâche le message et il prend l'os. Et il y a le petit diable et le petit ange qui sont dans sa tête et qui s'agitent. Et c'est le bien et le mal. Moi, j'aime bien donner cette description pour expliquer à mes enfants ce que c'est que la conscience. Alors, pourquoi je parle de la conscience ? Parce que j'ai tendance à penser, alors c'est peut-être parce que j'humanise trop les personnes qui sont en première ligne pour faire passer cette loi, peut-être, j'ai tendance à penser qu'ils sont mal à l'aise avec cette loi. Pourquoi ? Parce que, je le disais dans mon édito, ils ne définissent pas la loi avec les bons mots. Ils parlent de mort naturelle. Est-ce que c'est alors, toujours le cas, Lucie ?
Non, ça, alors ça y est, ça a été...
Ah, ça a changé. Ah bon, alors je suis plus à la page.
Mais bon, depuis simplement, depuis tout dernièrement, la nouvelle lecture à l'Assemblée, ils ont supprimé l'assimilation à la mort naturelle.
D'accord.
Mais c'est vraiment une extrémiste. Voilà.
Ils ne veulent pas employer le mot euthanasie.
Bon. Tout à fait.
Ils n'emploient pas les mots qui font mal, sans jeu de mots. Donc, en deux mots, ils font tout pour humaniser, esthétiser l'acte le moins humain qui soit, c'est-à-dire donner la mort. Comme si finalement il y avait une mauvaise conscience, ou alors si c'est pas de la mauvaise conscience, c'est qu'ils sont extrêmement cyniques. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Moi, ce que je perçois vraiment en écoutant les débats jour et nuit avec toute l'équipe de génétique.org, là, le média d'actualité bioéthique de la Fondation Le Jeune, ce que je vois, c'est qu'on assiste vraiment à une rupture entre les politiques, le côté institutionnel et idéologique. C'est vraiment, comme je le disais au début de l'émission, les promoteurs de ce texte, ils veulent imposer leur idée, une idée, leur idéologie, qui est le droit de choisir sa mort. C'est au fond ce qu'ils souhaitent. Et donc, ils sont en fait dans un débat d'idées, dans un débat idéologique qui reste politique et qui est désincarné. Et quand on lit d'ailleurs les chroniques de Mathieu Nolli ou quand on échange avec les gens, il y a une réalité, il y a quelque chose d'incarné, des réalités personnelles humaines qui sont tout à fait déconnectées de ces idées. Enfin, comment dire, peut-être que je ne m'exprime pas suffisamment
mais
on voit bien que l'idéologie qu'ils veulent imposer, eh bien, sur le plan des idées, voilà, pour imposer un droit, enfin imposer, créer un nouveau droit, voilà, être dans eux, ils pensent que c'est un droit progressiste. Eh bien, en réalité, les gens, ça va les contraindre et ça va les enfermer dans un, ça va les enfermer, voilà. Parce qu'ils n'auront plus le choix, ils n'auront pas de choix.
Alors, ce que vous voulez dire, c'est que philosophiquement, ils souhaitent donner le droit à chacun de, entre guillemets, s'euthanasier. Et leur objectif final, c'est pas de rentrer dans une espèce d'industrialisation de l'euthanasie et d'euthanasier. C'est plus le droit de s'euthanasier que le droit d'euthanasier.
Oui, je pense quand même.
Vous pensez que c'est ça ?
Je pense.
Et donc vous pensez que...
Je peux me tromper, mais je pense.
Parce que philosophiquement, c'est important quand même.
Oui.
Mais vous pensez qu'ils jouent aux apprentis sorciers. En permettant aux gens de s'euthanasier, ça va dériver, on va euthanasier. C'est ce que vous pensez ?
Oui, exactement.
D'accord. Parce que là, dans la rubrique 4, je rebondis sur votre chronique, Mathieu, à un moment donné, un départ pour deux, Elisabeth et Jacques se donnent la main, prêts pour le grand plongeon. Donc c'est l'histoire d'un couple qui veut s'euthanasier. Et c'est très intéressant parce qu'on parle justement de ça. Jacques regarde Elisabeth intensément, il observe le changement qui s'opère à une vitesse prodigieuse, puisqu'Elisabeth s'est euthanasiée, et c'est à Jacques de le faire. Sauf que Jacques, il perçoit la lueur, etc. Il sourit, jette au sol la fiole qu'il devait ingérer et se lève. Donc, en fait, Mathieu, il n'ose pas aller au bout. Alors, est-ce que c'est par manque de courage ? Est-ce que c'est parce qu'il a peur ? Est-ce que c'est parce qu'il est pris par la conscience ? Je sais pas. Mais on sent qu'en fait, c'est quand même pas très facile d'aller au bout.
Oui, alors, en fait, dans cette chronique-là, non, s'il ne va pas au bout de son geste, c'est tout simplement parce qu'il se rappelle de toutes les crasses qu'elle lui a faites, et finalement il dit « pars tout seul, moi je vais mener la belle vie ».
Ah donc c'est ça, d'accord.
C'est une sorte de douce vengeance.
Je lui ai prêté de nobles intentions,
Moi je ne fais pas toujours de nobles intentions à un personnage. Mais sur la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit d'euthanasier ou se faire euthanasier ? Ça me fait penser à une chose, c'est une question que je posais, j'ai participé à plusieurs conférences sur le sujet ces dernières années, et j'aimais bien, parce que je trouve ça toujours assez rigolo, à la fin poser une question, parce que en fait on parle de sujets, encore une fois, qui sont très concrets en réalité. Et qu'est-ce qu'on demande ? C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont plutôt bien portants, relativement bien portant, qui se disent voilà, ça commence à dégringoler dans tous les sens, je veux pas être gaga, je veux pas être grabataire, je veux terminer ma vie maintenant parce qu'il n'est pas question que je sois en déchéance physique et morale. Bon, c'est très le côté 68ard, boomer, bronzé et lifté qui veut jusqu'au bout être beau, qui veut partir dignement et compagnie. Bon, soit, admettons. Mais la question que je me pose et la question que je posais dans ces dans ces conférences, c'était la question suivante. C'est, en fait, on va s'amuser à faire un truc, on va retourner la seringue. Et là, tout à coup, et lequel d'entre vous serait disposé et prêt à appuyer sur la seringue pour zigouiller son père? Parce qu'en fait, on demande à un médecin de le faire. Mais est-ce que nous-mêmes, on serait en position, on serait en posture, on accepterait de commettre ce geste qu'on demande à un médecin de faire, qui n'est pas anodin? Quand, en soins palliatifs, les gens administrent la sédation profonde et continue jusqu'au décès, il y a un débat, c'est long, c'est lourd, il y a des gros de paroles, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, ce qui se passe là. Et il s'agit de mettre de malades, de patients en phase terminale, en train de mourir, dont on accélère pour quelques heures, voire quelques jours dans les pires extrémités, si j'ose dire, un décès qui arrive. Mais c'est pas pareil du tout que d'administrer une substance létale à quelqu'un qui est sain, qui ne va pas mourir, et qu'on connaît, qu'on va zigouiller. Mais si on demande à un médecin de le faire, c'est là où je veux en venir, quand on demande à un médecin de le faire, est-ce qu'on songe que nous-mêmes, on pourrait le faire? Est-ce qu'on songe qu'un médecin pourrait passer comme ça, se balader avec sa petite mallette, passer d'une chambre à l'autre, allez tiens, hop, je te pique, hop, je te pique, hop, je te pique, hop, je te pique, et puis je rentre chez moi, je regarde la télé, je nourris mon chien, et je vais me balader. C'est quelque chose qui est extrêmement perturbant.
Vous en parlez que la question du salon d'euthanasie, c'est une sorte de marché de la mort.
Oui.
En fait, c'est finalement une esthétisation de la mort. Et donc, on essaie de rendre marketing quelque chose qui est complètement indigne. Ils essayent, tous leurs projets, selon moi, c'est d'essayer d'humaniser un acte qui ne l'est pas.
Mais va y avoir un business
pour pouvoir le
énorme,
faire passer. Et d'ailleurs, Lucie, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais le fait, effectivement, de dire à la personne qui est dans l'entourage, vous en faites pas, c'est quelqu'un du service médical qui va le faire, etc., c'est encore une manière de dire, on va cacher. On va cacher. Un peu comme l'avortement entre nous. On essaye de cacher ce qu'il ne faut pas voir, parce que si on le voit, on va se poser des questions. Et si on se pose des questions, c'est la conscience qui revient. Or, il faut cacher absolument.
Tout à fait. Et moi, je trouve une des preuves de ce camouflage, c'est justement que le texte, cette proposition de loi qui est en fin de débat et qui sera votée définitivement, en tout cas le 15 juillet à l'Assemblée, donc dans 8 jours, vous le disiez, intègre l'administration de l'acte létal, donc l'euthanasie et ou le suicide assisté, dans le champ du soin. Voilà. Oui. Tout le protocole, toute cette proposition de loi, d'ailleurs c'est le premier article, intègre dans le soin, dans le code de la santé publique, l'administration de...
Manipulation de sémantique.
Sémantique et juridique.
Et juridique.
Puisque on n'est pas dans la dépénalisation. On n'est pas en train de modifier le code pénal. Alors on le modifie aussi, mais en premier lieu, on modifie le code de la santé publique en intégrant l'euthanasie et le suicide assisté dans le champ du soin. Et ça, c'est le premier mensonge. C'est qu'en fait, on va faire passer ce qui aujourd'hui est de l'homicide volontaire. On fait passer l'homicide volontaire aux soins, à un geste médical.
Ouais, donc, on le relativise.
On le relativise et on le compromet surtout. Ça, c'est un mensonge et c'est un camouflage.
Mais ça, ils le font sciemment.
Ils le font sciemment, tout à fait.
Absolument, pour faire passer la pilule.
Parce que ça aseptise, exactement. Et puis, les gens, enfin, moi, je fais partie des gens, d'ailleurs, mais on considère, enfin, ce que fait le médecin, de manière générale, on se dit que c'est bien, c'est pour nous. On écoute son médecin. Un acte médical, on en a confiance en général. Enfin,
Moins depuis le Covid, mais...
un peu moins, c'est vrai, mais bon, ça reste encore un peu quand même. C'est sûr que ça va profondément changer la relation au médecin aussi.
Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose?
Non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur ce point, quoi. Mais on joue sur les mots, mais de la même façon qu'on joue sur les mots pour édulcorer tout depuis des années et des années. On dit pas un sourd, on dit malentendant. Et ça procède de cette même façon de dire, si on dit les mots trop crûment, on va choquer les gens, on va peiner les gens. Et en fait, à force d'euphémisme, on aboutit à créer une violence qui est au-delà des mots, mais qui n'est pas moins vraie.
Alors, je rebondis sur la question des soins, parce que j'ai lu dans votre petit livre, Lucie, que j'ai oublié, pardonnez-moi, il y avait un petit, je dis ça à nos auditeurs, il y a un petit bouquin sur l'euthanasie que j'ai lu, annoté, etc., que j'ai oublié, de la Fondation, qui est sorti il y a 4 ans, Une espèce de petit bouquin.
Le manuel de bioéthique de l'euthanasie.
Absolument.
Oui, tout à fait.
Pardonnez-moi. Donc, je l'avais lu, annoté, etc. pour l'émission. Je l'ai oublié. Pardonnez-moi, chers auditeurs.
Oui.
Et vous parlez dans ce livre, justement, du fait de dire qu'ils ont sciemment mis dans les soins le fait de nourrir et de donner à boire à une personne souffrante, ce qui permet juridiquement et de manière sémantique d'arrêter de le faire boire et de le faire manger. Quand on dit que j'arrête les soins, ben on arrête aussi de le faire manger et boire, et donc c'est de l'euthanasie, oui. Une forme d'euthanasie. Est-ce que je me trompe ?
Oui, tout à fait. C'est sûr que dans les années précédentes, dans les débats précédents qui ont concerné la fin de vie, il y avait quand même des questions qui ont été soulevées déjà et qui posaient vraiment problème, et notamment cette question sémantique entre le terme traitement et le terme soin. Qu'est-ce qu'on met dans les traitements,
voilà,
qu'est-ce
ça.
qu'on met dans le soin ? Or, l'acharnement thérapeutique... Le rejet de l'acharnement thérapeutique, le rejet de l'obstination déraisonnable commande, et c'est bien de pouvoir arrêter les traitements. Voilà, les traitements, c'est traiter, hein, on comprend bien ce que c'est. Voilà, les traitements médicaux, donc la chimio, si elle n'a plus d'effet, les protocoles médicaux qui avaient pour objectif de guérir, mais qui ne fonctionnent pas, et donc s'ils sont sans effet, eh bien, il est légitime, il est bon, y compris à la demande du patient ou sur la proposition des médecins, de les arrêter. Voilà. Jusqu'à 2016, c'est pas tout à fait juste, on va dire ça comme ça, jusqu'à 2016, donc jusqu'à la loi Leclerc-Leonetti, eh bien, il était légitime d'arrêter les traitements. Mais quand on parlait de traitement, c'était tout ce qui était thérapeutique. Et en 2016, le législateur français a considéré que l'hydratation artificielle et l'alimentation artificielle, ne relevaient plus des soins,
ah oui, voilà,
relever voilà. Et arrêter. Donc il y a toujours une question sémantique en fait.
Oui,
ce qui permet
d'avancer. C'est en général de l'ordre de la mauvaise foi.
De fait, c'est plutôt notre position, c'est vrai.
Mathieu ?
Oui, non, juste sur ce point, et pour nos auditeurs qui sont confrontés à ce genre de situation, un point qui me semble important à savoir, parce que voilà, je constate ça assez régulièrement, en fait, il faut savoir une chose, c'est que quelqu'un qui est en fin de vie, s'il ne boit pas, s'il ne mange pas, c'est pas parce qu'il ne boit pas, qu'il ne mange pas qu'il va mourir. En fin de compte, il faut bien comprendre la différence. Oui. C'est-à-dire que c'est parce qu'il est en train de mourir qu'il n'a plus faim, qu'il n'a plus soif. Son organisme ne nécessite plus l'alimentation et ne nécessite plus l'hydratation artificielle. Je dis ça juste parce que je vois trop souvent des gens qui se disent « Ah là, mais on ne lui donne rien à manger, on ne lui donne rien à boire. » Non, mais en fait, c'est pas lui rendre service que de le forcer à manger et à boire. Et en réalité, on arrive à un certain stade quand on est en toute fin de vie où on n'a plus,
plus besoin
parce qu'en fait, ça pompe tellement d'énergie de digérer même un verre d'eau, même une gorgée d'eau, ça pompe tellement d'énergie qu'en fait, c'est épuisant pour le malade. Et il faut, encore une fois, mais je ne dis pas ça pour moi, qui suis, si ce n'est un romancier. Bon, il s'avère, comme je vous disais, que dans le prolongement de mes engagements, parce que c'est bien s'engager, en écrivant un livre, enfin, c'est bien, c'est ce que j'ai fait, mais je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, voilà ce que j'ai fait. Et pour aller plus loin, je suis devenu bénévole à Jeanne Garnier, où je vois des gens qui sont admirables. Les soignants, les équipes sur place sont incroyables. Moi, je viens une demi-journée par semaine et je vis des joies ineffables, mais je constate des petites choses et que j'aimerais partager avec les auditeurs. Quand une personne mourante ne boit pas ou ne mange pas, il ne faut pas lui dire « Tiens, je vais te donner à manger parce que comme ça, tu vas te requinquer, mon vieux. » Non, il faut le laisser... Et s'il ne mange pas, c'est qu'il n'est plus en état de manger. Voilà. Juste une petite parenthèse pour apporter un tout petit peu de délicatesse à ça.
On va faire une petite coupure publicitaire, puisque justement pour que Radio Courtoisie ne meure pas, nous allons faire passer un petit appel à nos auditeurs donateurs, puisque Radio Courtoisie ne vit ni de subventions, ni de vente d'objets publicitaires, mais uniquement de la générosité de nos donateurs. Merci.
Chaque année, c'est le même scénario. Les vacances commencent, le quotidien s'arrête et certains choisissent d'oublier leurs engagements. Cet été, n'abandonnez pas Radio Courtoisie. Alors que la gauche veut nous bâillonner et détruire notre liberté d'expression qui vous est chère, votre radio reste fidèlement à vos côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'été est la période la plus difficile de l'année. Nous avons besoin de 200 000 euros pour continuer à émettre et vous préparer une rentrée percutante. Un euro, rien qu'un euro par auditeur. Cet été encore, aidez Radio Courtoisie à donner de la voix. Soyez partie prenante de cette résistance. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Radio Courtoisie, libre, indépendante et fidèle, grâce à vous.
Chers auditeurs, nous nous retrouvons pour notre émission consacrée à l'euthanasie avec Lucie Pachery de la Fondation Le Jeune. Merci encore Lucie d'être présente ici aujourd'hui à J-8 de la loi sur l'euthanasie à l'Assemblée nationale, puisque après des navettes parlementaires et l'échec de la commission paritaire, c'est l'Assemblée nationale, comme vous le savez, qui a le dernier mot. Et donc c'est dans 8 jours. Et merci également à Mathieu Nolli, dont je rappelle le livre Chronique euthanasique pour mamie. Là, vous êtes allé fort, hein, avec une grosse seringue. Pour bah, mamie, c'est un petit cadeau, aux éditions quoi. Salvatore.
Je recommande... Elles sont un peu piquantes, les chroniques, j'avoue.
Je recommande à tous nos auditeurs de l'acheter. C'est pas cher, c'est moins de 10 euros. Et honnêtement, ça se lit en une heure. Et ça vous permet d'avoir un regard acerbe, critique, sur ce qui se passe actuellement. Et ça permet de réfléchir également. Alors, nous parlions effectivement du J-8. Lucie, on en est où en termes de rapport de force, en présence? Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait une petite bascule en notre faveur depuis quelques jours.
Oui, tout à fait. Alors, peut-être qu'on peut commencer par dire qu'en ce moment, les sénateurs sont en train d'examiner le texte en nouvelle lecture à leur tour et qu'il y a une motion de rejet préalable qui a été présentée par les rapporteurs. Et donc, il est très vraisemblable, mais je n'ai pas le résultat encore maintenant, au moment où nous discutons, il est très vraisemblable que les sénateurs rejettent sans même discuter, sans même présenter d'amendement en nouvelle lecture, puisqu'ils ont rejeté déjà deux fois, en première et deuxième lecture, le texte de l'Assemblée. Puis, enfin bref, ils ont rejeté deux fois le texte qui leur était soumis. En revanche, à l'Assemblée nationale, pour la troisième fois, le 30 juin, les députés ont voté à la majorité pour la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Mais il faut noter qu'en un an et demi, ou un an, puisque la première lecture était en mai 2025, je ne compte pas la version avant dissolution, les choses bougent et les voix bougent, les votes bougent, puisque en mai 2025, en première lecture, on était à 305 voix pour le texte, et qu'aujourd'hui, le 30 juin, en nouvelle lecture, donc c'est-à-dire la troisième, pardon, on peut dire tous ces mots-là, on en est à 295 voix pour, et s'il faut compter les voix contre, puisque c'est celle-ci qui nous intéresse, en première lecture, il y avait 199 députés qui avaient voté contre, et aujourd'hui, on en est à 232. Alors oui, l'écart, ce n'est pas suffisant, donc je rappelle peut-être...
Est-ce que vous nourrissez un peu d'espoir ou...
Ben, on nourrit de l'espoir dans le sens où ça n'est pas fini. Voilà, on pourra dire que c'est terminé le 15 juillet et encore peut-être que même si c'est légalisé, tout commencera parce qu'il faudra continuer et on aura beaucoup de choses à observer, à décrypter. Enfin voilà, on aura beaucoup de choses à faire. Mais ce qu'on observe là, c'est qu'en nouvelle lecture, donc le 30 juin, il y avait 295 députés contre 232 qui ont adopté ce texte, avec 35 abstentionnistes, et qu'on voit bien quand même qu'il y a quand même des députés qui changent d'avis, voilà, qui étaient abstentionnistes et finalement qui votent contre. Il y a des députés qui ont voté pour et qui finalement deviennent abstentionnistes. Donc il est encore temps et il faut encore.
Parce qu'il y a des gens qui votent contre et qui se mettent à voter pour.
Non.
Non. Donc c'est dans le bon sens.
Exact. Oui. Et donc il faut continuer à contacter ces députés avant le 15 juillet pour leur demander, et particulièrement ceux qui se sont abstenus, pour leur demander, dans le doute, voter contre.
Alors on va faire une petite incise, vous avez raison. Qu'est-ce que nos auditeurs peuvent faire? Je comptais en parler à la fin de l'émission, mais on va en parler tout de suite. En termes d'action, si un auditeur veut y prendre sa part, que peut-il faire concrètement pour faire avancer la cause?
Eh bien, très concrètement, il peut se connecter. Enfin, s'il est donateur de la Fondation, il recevra un mailing aujourd'hui même, d'ailleurs, pour lui suggérer de contacter ses députés, son député. Il y aura toute une liste pour contacter en priorité les députés qui se sont abstenus. Mais il peut aussi se rendre sur le site de la Fondation, où d'ailleurs, on est plusieurs associations, hein, Alliance Vita, les AFC, à proposer des outils d'interpellation. Des députés. Et donc je pense que même si on l'a fait, même il y a peut-être des auditeurs qui l'ont déjà fait en première lecture, en deuxième lecture, et qui se disent ça ne sert à rien, il faut le refaire pour ce vote solennel du 15 juillet. Il faut, c'est encore le moment où on peut exprimer librement notre opposition et demander à la représentation nationale de voter contre. Et donc ça vaut le coup de le faire.
Alors moi je vais dans votre sens, parce que le entre guillemets, ça ne sert à rien, je l'ai entendu 1000 fois pour toutes les manifs. Déjà, on ne sait pas si on n'avait pas manifesté, ce ne serait pas pire. Donc ça, on ne le sait pas. Et puis, si on ne fait rien parce que ça ne sert à rien, c'est déjà laisser la victoire à nos adversaires. Mmh. Donc, je pense qu'il faut effectivement le dire, le redire.
Tout à fait. Nous, on a proposé avec plusieurs autres associations le moyen d'une carte postale. Donc, vous pouvez aussi commander une carte postale sur le site euthanasie-abandon.fr pour l'envoyer à votre député. Et sur la carte postale, il y a marqué « L'euthanasie est un abandon, je vous demande de voter contre ». Voilà, ça peut être une autre modalité. Mais l'idée, c'est vraiment de contacter son député. Et moi, j'encourage vraiment à appeler aussi, soit à les rencontrer en circonscription, mais si on n'est pas tout à fait à l'aise pour aller physiquement rencontrer son député, on peut appeler l'Assemblée nationale, demander à être mis en relation avec le bureau de son député et vraiment parler avec lui de vive voix au téléphone pour lui demander de voter contre.
Alors, vous pouvez redonner le nom de votre site, Lucie, pour que les auditeurs puissent se connecter?
Oui, alors www.fondationjeromelejeune.org ou euthanasie-abandon.fr.
Euthanasie-abandon.fr. Merci Lucie. Alors, à propos de sémantique et à propos de combat, il y a une association qui œuvre contre vous, enfin pour le texte, et qui philosophiquement et au plan littéraire s'appuie sur quelque chose qui, effectivement, de leur point de vue, est imparable, c'est qu'on peut mourir dans l'indignité. Donc on peut mourir sans être digne. Alors, pour quelqu'un qui est conservateur, catholique, qui croit en Dieu, on est digne, point. On ne peut pas ne pas être digne dans une circonstance X ou Y. Or, leur argument, c'est de dire, quand vous souffrez, ou quand vous mourrez dans des conditions physiques, morales, de fin de vie qui ne sont pas acceptables, pas agréables, etc., on devient indigne et il faut mettre fin à cette indignité, ou du moins, il faut empêcher que cette indignité commence. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que cette association...
Pour le droit de mourir dans la dignité.
Pour le droit de mourir, merci.
La DMD.
Elle a pignon sur rue quand même, oui. Depuis des années. Oui. Non, mais il faut aussi respecter la force des adversaires, je
Tout
pense.
Tout à fait.
Et donc, comment vous argumentez là-dessus, Lucie?
Eh bien, cette question de la dignité, c'était leur premier argument depuis toujours. Hein, ils ont fondé leur nom de leur association dessus. Ils sont un petit peu gênés aux entournures quand même aujourd'hui, puisqu'on est dans une société qui se veut quand même plus inclusive, plus attentive aux personnes porteuses de handicap, aux personnes qui sont dépendantes. C'est vrai, voilà. Et donc, ils argumentent un peu moins sur la dignité. Parce qu'ils sont obligés, ils sont bien obligés de dire aujourd'hui que toute personne est digne, même si elle est limitée, même si elle est porteuse de handicap, etc. Et donc, leur petite pirouette, c'est de dire chacun qualifie sa dignité. Voilà, chacun doit pouvoir apprécier s'il se sent digne ou pas. Voilà, pour essayer de. Voilà, ils subjectivent, en fait, la question de la dignité. Et d'ailleurs, c'est présent dans le texte, puisque le quatrième critère pour accéder à mourir est présent. Enfin, voilà, ce qui est écrit dans la proposition de loi, je vous le lis. Présenter une souffrance liée à cette affection qui soit réfractaire au traitement et qui soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir de traitement. Bref, il faut avoir une souffrance qui soit insupportable selon la personne. Voilà, donc c'est très subjectif.
Alors, je vais donner la parole à Mathieu parce que je pense, vous allez peut-être me contredire, que ce que vient de dire Lucie est vraiment important parce que ça me fait penser au wokisme et à tout le mouvement transgenrisme, qui dit que je suis parce que je le décide, je le suis parce que je le veux, qui est une forme de décision par la volonté, de mise en œuvre des réalités par la volonté, et en fait c'est extrêmement individualiste.
Complètement, mais en l'occurrence la vraie dignité c'est d'avoir accès aux mêmes soins partout sur le territoire. La vraie dignité serait d'avoir accès partout en France aux soins palliatifs. Or, ce n'est pas le cas. Or, 50% des besoins en France en soins palliatifs ne sont pas couverts. Et c'est un petit peu là le biais de cette loi. C'est-à-dire que dès lors que pour avoir rendez-vous dans un centre antidouleur, on va attendre 6 mois. Dès lors que si on ne tombe pas sur le bon département, on n'a pas de service aux soins palliatifs et compagnie, et qu'on a le droit en 15 jours à se faire piquer, bon ben voilà. Le choix est vite fait. Et si en plus derrière, économiquement, on se dit qu'on a 70 000 euros sur son PEL ou son PEA et que, en fin de compte, 70 000 euros divisé par 4 500, qui est le prix de la maison de retraite et compagnie, ça veut dire que si on ne veut pas piquer dans les 3 mois qui viennent, ben on ne laissera pas d'argent à ses enfants. Donc voilà, ce sont tous ces calculs qui se mettent en œuvre. La dignité, elle est là, en réalité. Voilà. Donc...
Non, tout à fait. Je pense que cette question de la dignité, soit la dignité est objective parce que nous sommes humains, et donc il y a une dignité objective qui est liée à notre état
d'homme. À la singularité.
Voilà, d'homme. Soit on rentre dans l'interprétation et le jugement de la dignité de l'un ou de l'autre, même si même s'ils nous disent c'est la personne elle-même qui juge de sa propre dignité, en jugeant sa propre dignité, elle juge nécessairement celle de son voisin.
Moi, je pense que pour aller plus loin, un acte peut être indigne, mais une personne est toujours digne.
Oui.
Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Non, mais fondamentalement, mais toute personne est digne.
Je disais ça parce que pour rebondir sur cette notion d'individualisation et d'individualisme, si on prend les choses avec ce vrai individualisme, ça veut dire qu'on force les gens à se poser cette question-là par rapport à mon besoin à moi, par rapport à mes moyens à moi, par rapport. Et cette dignité-là, où le choix de se faire euthanasier ou pas procède de ce raisonnement-là. Or, qu'attend-on de la société ? C'est qu'elle nous protège. Là, on dit. La société ne te protège pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la société ne te protège pas, elle te dit, bon, si tu considères que t'es banni, t'inquiète pas, je te pique, c'est réglé. Et donc elle n'assume plus du tout son rôle protecteur, et donc c'est un rôle, une rupture anthropologique, mais également civilisationnelle majeure, où la puissance publique ne protège plus l'individu. Elle le laisse seul à faire son arbitrage. Et c'est glaçant, en fin de compte.
Absolument. Alors, allez-y.
Tout à l'heure, vous parliez justement du côté un peu politique et voilà, qu'est-ce qui se passe au Parlement. Je voulais simplement ajouter une idée parce que je disais tout à l'heure qu'il y avait des choses qui bougeaient en effet au niveau des votes et donc il était nécessaire de continuer, même si le mouvement est léger, mais quand même, il existe et donc il était nécessaire de contacter son député. Je voudrais simplement, ce qui m'a beaucoup marqué dans le débat à l'Assemblée nationale, c'est le nombre d'amendements déposés et le nombre d'amendements adoptés. Ah. Il y avait en deuxième lecture plus de 2000 amendements, en nouvelle lecture là la troisième plus de 1800 amendements et il y en a eu à peine une vingtaine ou une trentaine d'adoptés sur des considérations peu importantes.
Mais précisez pardon Lucie, des amendements qui vont dans quel sens?
Justement, ils ne vont pas forcément dans le sens. Ah ouais. Ceux qui sont les députés qui se sont opposés au texte, il n'y a quasiment aucun amendement qui a été adopté. Voilà, des amendements qui visaient à limiter ou à créer des garanties pour ce texte ou à limiter l'impact de ce texte ont tous été rejetés.
Et les amendements pour élargir les conditions, élargir la possibilité de, ont été adoptés.
Ou présenter une sorte d'équilibre quand même, puisqu'il y a eu plusieurs choses. Ce que je voulais simplement dire d'abord, c'est que le gouvernement qui en fait porte quand même ce texte, hein, même si c'est une proposition de loi, ne souffre d'aucune critique, ne souffre d'aucune contradiction, et les promoteurs de ce texte de la même façon. Ils ne veulent pas accueillir certaines critiques ou certains aménagements de ce texte. Ils veulent leur texte et c'est tout. Voilà, ça c'est la première chose. Et donc c'est là où on peut se poser la question de la démocratie. Voilà, ou en tout cas souligner que le débat était totalement impossible dès le début. Le débat est impossible parce qu'ils ont une idée préconçue de ce qu'ils veulent faire en légalisant l'euthanasie et le suicide assisté. Et tous les députés qui essaient d'amoindrir ou de mettre des dispositions de protection, par exemple exclure les personnes qui sont les malades psychiatriques, exclure les personnes qui ont une déficience intellectuelle et donc qui ont un discernement un peu altéré, eh bien tout cela ne sont pas protégés. Voilà. Donc ça, je trouvais ça important de le préciser. Il n'y a aucun débat possible. Et donc c'est nécessaire quand même de le dire.
Depuis que vous travaillez à la Fondation Le Jeune, vous pensez que c'est la première fois, de votre expérience en tout cas, que nous avons un débat où l'adversaire n'est pas pris en considération ? C'est la première fois que vous voyez ça ?
Non,
je ne le dirais pas comme ça à ce point quand
non,
même.
Mais j'ai l'impression à vous entendre que là c'est vraiment clé en ce sens que pour vous, ils en font un texte fondateur ou un texte clé, comme si finalement c'était Macron, 10 mois avant de tirer sa révérence, voulait laisser une empreinte avec cette loi. Est-ce que c'est ça que vous sous-entendez,
Lucie ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que pour un texte aussi majeur, aussi clé, c'est quand même un nouveau sujet, là, légaliser l'euthanasie et suicide en France, ça, c'est une rupture anthropologique majeure, on l'a dit, mais donc juridique aussi, donc c'est quand même un texte très nouveau, c'est une disposition très nouvelle, hein, contrairement aux lois de bioéthique qu'on révise tous les 7 ans et où on peut avoir aussi ce genre de débat impossible. Voilà. Et il y a aussi un contexte politique très fort où, de fait, il y a une pression du gouvernement pour adopter avant l'été, parce qu'ensuite, on va retomber dans les budgets, puis ce sera la campagne présidentielle. Donc, s'ils veulent ce texte-là sous cette mandature, c'est maintenant. Et c'est là aussi, c'est la deuxième idée que je voulais dire, c'est là aussi où on peut aussi écrire au Premier ministre encore pour s'indigner de cela. Parce qu'en réalité, c'est le gouvernement qui a décidé d'octroyer le dernier mot à l'Assemblée nationale. Il n'était pas obligé de le faire. Constitutionnellement, il est possible qu'un texte poursuive sa navette de manière indéfinie jusqu'à ce que les deux chambres se mettent d'accord. Il n'y a pas d'obligation que l'Assemblée nationale porte le dernier mot. Or, c'est bien le gouvernement qui a décidé cela pour ce texte, pour rentrer, je pense, dans la pensée du gouvernement et pour que ce texte soit adopté. Et je voudrais simplement rappeler que ce qui est tout à fait étonnant, c'est que M. Lecornu ne s'est jamais exprimé, alors que c'est normalement le Premier ministre qui doit décerner ce dernier mot à l'Assemblée. Il est probablement gêné et donc peut-être qu'il faut particulièrement s'indigner auprès de lui. Voilà. Est-ce que ça en aura une efficacité là, dans 8 jours ? Je ne sais pas, mais on peut quand même le faire.
Alors,
oui, et puis on peut aussi se dire qu'il peut y avoir un miracle, parce que quand même, franchement, pardon, je prends la parole sur ce sujet,
mais
en 2024, souvenez-vous, on était en juin 2024, le vendredi soir, la loi allait passer en première lecture. Le vote allait avoir lieu, si mes souvenirs sont bons, le mardi.
Tout à fait.
Et là, élection européenne, bim bam boum, Macron, le président Macron sort de son chapeau la dissolution, tout tombe à l'eau. Donc on a vu un miracle. Et pourquoi ne pas avoir une dissolution ce week-end ? J'y crois pas trop, pour être très franc. Mais qui sait ? Vous savez, on peut toujours espérer un miracle, une petite mésaventure, un tremblement de terre, quelqu'un qui... tombe de l'escalier, des choses qui, un peu amusantes qui pourraient se produire et qui feraient que, voilà, et pourquoi pas. En tout cas, on est croyant, donc on peut espérer et croire un miracle. Hein. Et j'en profite pour dire une petite incise à ce sujet, parce que c'est quelque chose qui m'a été dit à plusieurs reprises. Ouais, mais bon, toi, t'es contre l'euthanasie, c'est normal, t'es croyant. Bah ouais, mais en quoi est-ce que le fait d'être catholique me disqualifie dans ce débat ? Et que donc, fait, d'être gâteau, je devrais faire ma gueule. Hein. Enfin, je sais pas. Certes, nous sommes plus 80% de croyants pratiquants qui vont à l'église tous les dimanches. Certes, l'église est une vieille dame fatiguée et compagnie. Mais elle a quand même fait la France. Et on a peut-être droit de dire ce qu'on pense par rapport à ça. Et c'est assez frappant, c'est assez blessant même, de s'entendre dire que dès lors que t'es gâteau, bah, ferme ta gueule, en fait. Et je trouve ça un peu blessant, en fin de compte. Je trouve ça un petit peu triste. Voilà. Parce qu'on n'est pas seul, et parce que c'est là où, quelle que soit l'évolution de la loi, et si, quand bien même la loi devait être votée le 15, quelque chose de tout à fait neuf s'est produit à l'occasion de cette loi, et je tiens à mettre l'accent dessus, c'est qu'on n'est plus seul, en fait. On n'est plus que quelques pourcentages de catholiques pratiquants en France qui se sont opposés à cette loi. On est soutenu, non pas dans notre foi, mais on est soutenu dans cette cause par un grand nombre de médecins, de praticiens, d'intellectuels, même de jeunes. Et il y a une France jeune qui se réveille et qui est admirable. Bon, elle n'a pas souvent les cheveux bleus, mais voilà. Mais il y a quelque chose qui se lève et qui est très puissant. Je crois, honnêtement, que le promoteur de la loi se dise « Vite, 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 faisons passer la loi parce que dans 6 mois, c'est mort. » Je crois vraiment à ça.
Alors, il y a plus que ça. C'est que ce que je disais dans mon édito, c'est que malheureusement, les lois sociétales, c'est des roues crantées. Dès que c'est passé, on ne revient jamais dessus. Même les opposants à la loi, quand ils arrivent au pouvoir, ne reviennent pas sur les lois qu'ils ont combattues avant par peur de l'opinion, etc. etc.
C'est vrai.
C'est un classique en France, ça c'est vrai. Mais si c'est voté le 15 juillet, parce que je suis d'accord avec vous, Mathieu, on peut aussi espérer un miracle, entre guillemets, et puis faire jusqu'au bout, enfin tenter jusqu'au bout d'inverser les votes, eh bien, on arrivera au moment de la campagne présidentielle. Voilà. Et donc, la question de l'euthanasie, c'est pas parce qu'elle aura été votée 6 mois plus tôt qu'elle sera enterrée. Au contraire, ce sera sûrement un motif de campagne, ou en tout cas un sujet politique qu'on pourra réintégrer dans la campagne présidentielle.
Pour voir si quelqu'un l'abroge.
Tout à fait.
Et puis, il y a eu cette loi dont fait l'euthanasie, mais il y a également la loi sur les soins palliatifs qui a été votée et qui a, pour le coup, fait l'unanimité. Charge à nous de promouvoir les soins palliatifs, charge à nous de dire combien c'est beau ce qui s'y passe, et j'ai des idées à ce sujet, mais on en parlera en temps et en heure. Charge à nous de mettre en avant la beauté de l'accompagnement doux, humain, médical, des soignants, des équipes de soins palliatifs qui sont, encore une fois, absolument admirables. Et donc, plutôt que de ronchonner et pester et s'énerver et s'égosiller parce que ça se passe pas comme on veut, mettons de la lumière sur ce qui est beau et sur ce qui est fort, et soyons optimistes et joyeux et chaleureux.
Tout à fait. Je voudrais simplement rebondir, puisqu'on en parlait, la Fondation Jérôme Lejeune a eu l'immense grâce d'être reçue par le Saint-Père il y a quelques jours. Et donc nous revenons de Rome presque tout juste, j'allais dire, et Léon XIV, donc c'était à l'occasion des 100 ans de naissance de Jérôme Lejeune, et Léon XIV nous a vraiment encouragés dans notre mission, donc dans nos 3 missions, chercher, soigner, défendre, les missions de la Fondation Jérôme Lejeune. Mais il a beaucoup insisté sur la notion sur la mission de défense de la vie humaine, en nous encourageant dans les actions que l'on mène, y compris auprès des pouvoirs publics. Et il nous a invités à poursuivre le combat et à toujours lier la parole aux actes, la foi à la raison, pardon, d'abord la parole aux actes, l'absence de jugement des personnes et le rejet du mensonge. Voilà. Et je trouve que dans ce contexte qui est un peu dur en France, c'était un
le
immense...
mensonge, vous avez raison, c'est la clé de voûte de tous les mots.
Des immenses paroles d'espérance.
Alors justement, à propos d'espérance, est-ce que, je crois que oui, mais vous allez me confirmer Lucie, est-ce que on peut encore espérer agiter la clause de conscience, parce que j'ai vu que ça avait été sorti, puis remis, et c'en est où
la clause de conscience, elle est très relative dans le texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale là, en 3e lecture, et donc qui ne va pas être modifié par le Sénat, hein, si vous avez bien suivi. La clause de conscience, elle existe pour les médecins et les infirmiers, mais elle est relative dans le sens où les médecins seront obligés de renvoyer le patient à un autre médecin qui fait l'euthanasie ou le suicide assisté. En revanche, les pharmaciens qui préparent la substance létale et qui la délivrent ne pourront pas, oui, n'auront pas de clause de conscience. Et puis, encore pire, enfin, ou tout autant, les établissements ne pourront pas, n'auront, il n'y aura pas de clause d'établissement, c'est-à-dire que les établissements seront contraints, selon la loi, d'accueillir des euthanasies dans leurs murs.
Donc la clause de conscience est individuelle, mais elle n'est pas par établissement.
Tout à fait. Et donc la petite sœur des pauvres qu'on a entendue au début de l'émission, son inquiétude est très légitime, et rien que cela devrait tous nous faire lever, parce que c'est absolument impossible, enfin insupportable, se dire que les établissements sous tutelle chrétienne ou voilà, les établissements catholiques n'auront pas de moyens pour refuser d'euthanasie dans leur mur.
Alors, à propos de conscience, je pense qu'on peut aussi réfléchir en regardant ce qui se passe ailleurs. Et j'ai regardé un peu ce qui se passait en Europe. Vous allez me confirmer, Mathieu, Lucie, ce qui se passe, notamment en Hollande et en Belgique, où la loi telle qu'elle est en ce moment votée en France existe déjà, si je m'abuse. Et moi, j'ai vu un chiffre que vous allez me confirmer ou m'infirmer. Je ne sais plus si en Hollande ou en Belgique, où il y aurait à présent, sur 17 personnes décédées, une personne euthanasie. Un ratio de 1 à 17. Alors, je l'ai lu, je ne sais plus où, c'est peut-être faux. Mais ce qui rendrait crédible ce que je disais tout à l'heure dans mon édito, à savoir que, ben, au début, on fait une loi avec des choses très précises, et plus le temps passe, plus ça s'ouvre, puis à la fin, en fait, je ne dis pas qu'on euthanasie tout le monde, mais on en arrive à des critères tellement larges qu'on on a peur de passer soi-même à la moulinette parce qu'on attrape un rhume, quoi. Alors, je ne sais pas, dites-moi ce qui se passe dans les autres pays européens, Lucie, si vous avez des éléments.
Oui, bah je peux vous dire un petit peu, mais alors déjà, je trouve ça important de rappeler qu'il n'y a pas 10 pays dans le monde qui ont légalisé l'euthanasie et le suicide assisté. Ouais, il y a moins de 10 pays qui ont légalisé.
C'est très important de le dire.
Donc la France s'illustrerait très tristement à l'égard de tous les autres pays du monde. Donc on n'est pas du tout en retard sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, sur ces sujets sociétaux, qui disent on est en retard souvent.
Enfin, c'est l'argument du programme.
Voilà. Donc pas du tout, et au contraire on s'illustrerait tristement. Ensuite, en Belgique, les exemples étrangers, que ce soit Belgique, Canada, Suisse ou Pays-Bas, nous montrent que les lois s'élargissent, les critères des lois. S'élargissent au fur et à mesure du temps. Et au Canada, ils sont en train de réfléchir à légaliser l'euthanasie pour les personnes qui ont une déficience mentale. Donc, qui n'ont pas le même discernement, en tout cas, que nous. Il y a aussi, on peut être euthanasié pour question économique. Voilà, il y avait eu cette histoire d'une personne SDF qui finalement avait réussi à obtenir l'euthanasie parce qu'elle était en situation de...
Est-ce que vous oseriez tisser un lien entre euthanasie et eugénisme ?
Ah oui, je le tisse sans problème, sans difficulté, parce qu'au fond du fond, alors d'autant plus en travaillant aussi sur les lois de bioéthique depuis 15 ans, on voit bien qu'il y a une même idéologie derrière qui est celle de penser qu'il y a des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues.
Des vies indignes.
Des vies indignes, voilà. Des vies qui ne valent pas la peine.
Ou des vies inutiles.
Tout à fait. Et donc, finalement, que ce soit au début ou en fin de vie, c'est la même logique.
Alors, ce qui est très paradoxal, et je vous laisse la parole, Mathieu, pardon. Ce qui est très paradoxal, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, on met en avant depuis 20-30 ans, à juste titre d'ailleurs, les personnes qui sont personnes handicapées, qui sont dans des petites chaises, qui ont des difficultés, qui n'ont pas la même chance que tout le monde, etc. On les met en valeur dans la société, donc des personnes qui ont besoin des autres, donc des personnes faibles, et pour autant, là, on considère que ces personnes n'ont pas une vie digne.
Oui, d'accord.
C'est assez paradoxal, tout ça.
On les pousse dans une chaise roulante avec beaucoup de tendresse et d'affection, et puis quand on arrive en haut de l'escalier, on les fait basculer. Non, plus sérieusement, vous parliez de la Belgique et de la Hollande, on pourrait parler également du Pays de Galles, de l'Angleterre et de l'Écosse, qui récemment se sont opposés à la légalisation de l'euthanasie. Donc, en fait, tout n'est pas perdu.
C'est possible.
Tout n'est pas perdu, et il y a des parlements, des grandes démocraties, qui se sont opposés à cette légalisation. Donc, tout espoir n'est pas vain.
Parce que moi, j'invite quand même les auditeurs à regarder ce qui se passe ailleurs pour comprendre ce qui peut se passer ici, parce que c'est le meilleur des comparaisons quand même, non, vous croyez pas ?
Oui, simplement, s'agissant, et c'est là où la loi est un peu biaisée, encore une fois, c'est-à-dire que les organes de contrôle de l'euthanasie en Belgique, je parle sous votre contrôle, mais les organes de Lucie, les organes de contrôle sont tenus par les partisans de l'euthanasie. Donc forcément, ils vont dire « Ouais, ça se passe bien !» Mais ils vont pas dire que ça se passe mal, puisque c'est eux qui ils sont pour. Donc voilà, qui sera... Il y a encore, voilà, si tant est que la loi devait passer, qui fera partie des commissions de contrôle? Bon, il y a la Conseil constitutionnel, etc., etc., bien sûr. Mais qui fera partie des organismes de contrôle? Il y a encore de la place pour que ceux qui ont une voix un peu sensible, sensée, puissent intervenir et agir à l'avenir pour éviter que les dérives ne l'emportent. Ce qui est très encourageant aussi, c'est qu'on a eu un lavage de cerveau pendant 20 ans des grands médias, avec des émissions larmoyantes, avec des célébrités émouvantes, émollientes, racontant leurs mésaventures, et combien, franchement, c'était vraiment, ils avaient envie de clamser. Mais on a bien vu qu'au fur et à mesure que le débat progresse, avance, ben, plus les gens sont au courant de ce qu'il en est, moins ils sont en faveur de l'euthanasie. Alors après, on voit bien qu'il y a un chemin qui est extrêmement long, parce que d'expérience, de ce que je vois, si vous demandez à 20 personnes dans la rue quelle est la différence entre une sédation profonde et continue jusqu'au décès et une euthanasie, il sera bien incapable de vous répondre. Il faut connaître.
Je pense que la problématique, c'est que quand vous légalisez quelque chose, on pense que ça veut dire que c'est légitime. Donc du coup, c'est une solution qui s'offre à nous. Alors qu'avant, on ne se posait pas la question. Je pense qu'il y a beaucoup... Un peu comme l'avortement, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, de toute façon, comme il n'y a plus de morale commune, c'est la loi qui est la morale commune.
Absolument.
Or, à partir du moment où c'est légal, ça devient moral pour la plupart.
Et ça devient bien. Absolument. Et donc, du coup, à propos des présidentielles, vous parliez des présidentielles, comment les candidats aujourd'hui, dont on sait qu'ils vont partir aux présidentielles, se sont affichés sur le sujet, Lucie?
Alors, je n'ai pas entendu de candidats, en tout cas ceux qui se sont manifestés, en parler, ça c'est sûr. J'ai bien entendu parler de Gabriel Attal qui brandissait la GPA, de Marine Tondelier qui brandissait le DPIA, qui est un sujet bioéthique qui nous importe beaucoup à la Fondation et qui nous inquiète beaucoup. Il s'agit du tri des embryons trisomiques en éprouvette. Mais voilà, j'ai pas eu de...
Donc Bardella, Zemmour... Ils n'en ont pas parlé?
Non, enfin, pas à ma connaissance. Ensuite, tout à fait, voilà. Mais il n'en a pas parlé encore explicitement dans ce cadre-là, mais c'est sûr que Bruno Retailleau...
Bruno Retailleau en a parlé?
Je ne sais pas. En tout cas, de manière générale, il en a parlé, pas dans le cadre de la campagne. Voilà, c'est ça que je... dans l'annonce. Parce que Gabriel Attal a déjà parlé d'un sujet sociétal en parlant de la future campagne présidentielle. D'accord. Et Marine Tondelier, pareil. Voilà, j'ai pas entendu ça de Bruno Retailleau. En revanche, il est certain que Bruno Retailleau a fait partie des sénateurs qui se sont opposés et qui ont été courageux et qui sont tout à fait opposés à ce texte.
Parce que là, on parle aujourd'hui, surtout en raison de l'actualité du Rassemblement national. Quelle est la position demain s'il remporte l'élection présidentielle? C'est quand même quelque chose de, aujourd'hui, plus que possible, même probable, à aujourd'hui en tout cas. Quelle est leur position sur l'euthanasie?
En tout cas, à l'Assemblée, il n'y a pas eu de consigne de vote. Donc, il y a quand même quelques députés RN qui ont voté en faveur du texte, pour le texte. Hein. Mmh. La majorité du groupe à l'Assemblée a voté contre, mais il y a quand même 17 députés, si je ne me trompe pas, RN qui ont voté pour. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que, moi, j'avoue que, en tant qu'opposition, on aurait aimé, je trouve, qu'ils soient tous contre le texte, ne serait-ce par principe, en fait.
Alors, par principe, vous voulez dire qu'ils soient tous pour, mais de manière, grâce à une espèce de cohésion, pas parce qu'on leur aurait forcé la main, c'est ça que vous voulez dire?
Peut-être il aurait même pu y avoir une consigne de groupe
consigne
pour
de
dire...
Vous auriez aimé qu'il y ait une consigne de vote sur le sujet?
Pourquoi pas?
Ah, d'accord,
pourquoi pas,
parce que le sujet est trop grave.
Oui, tout à fait. Bon, c'est mon petit avis. Mais...
Non, je vous en prie, on est là pour ça.
Je trouve ça fabuleux et magnifique, mais encore une fois, sans prendre de parti ou de position politique, je trouve ça juste magnifique qu'une grande partie, mais pas tous, parce que certains s'y sont opposés, mais une grande partie des députés de gauche ont voté en faveur de cette loi qui, in fine, va concerner les plus faibles et les plus fragiles, puisque... Comme je disais tout à l'heure, Madame de Saint-Fargeau, qui a un château en Bourgogne et beaucoup de patrimoine, elle pourra être soignée, traitée, accompagnée jusqu'à une mort douce dans un institut coûteux. Mais Madame Lambert, qui a un petit appart à Clamart, qui n'a pas beaucoup d'argent, et qui votait en son âme et conscience pour le Parti Socialiste, se retrouvera bien dépourvue quand la piqûre fut venue. Voilà, et c'est quand même assez sordide, en fin de compte, de se dire que... Ah bon, c'est sordide. cette gauche, le parti du bien, le parti des gens bien qui pensent comme il faut et compagnie, qui disent voilà, on va zigouiller les faibles tout en portant la voix des plus faibles et des opprimés, je trouve ça assez sidérant en fin de compte.
Alors il nous reste 6 minutes, je voudrais simplement aborder un dernier sujet avant de conclure sur votre actualité à chacun de vous. On passe un peu de la marchandisation du corps vivant, à savoir, vous parliez du tri des embryons, etc., à la marchandisation du corps mort avec, j'ai lu ça aussi, vous allez m'en parler, Lucie, avec le risque des greffes, et notamment le risque, quand on ne s'oppose pas au prélèvement, au moment de l'euthanasie, à ce qu'on vous prélève de manière tacite, puisqu'il faut faire un papier, je crois, pour dire qu'on ne veut pas être prélevé.
Tout à fait, oui.
Donc on rentre dans une espèce, après l'industrialisation et la marchandisation de la mort, dans l'industrialisation et la marchandisation des organes. Est-ce que je vais trop loin en disant ça, ou pas? Est-ce que c'est Huxley qui finit par boucler la boucle?
C'est pas faux ce que vous dites, puisque de fait, en France, il y a, depuis la loi santé de 2016, un consentement présumé au don d'organes. Mmh. Donc il faut être inscrit dans le fichier de refus du don d'organes pour ne pas être prélevé. Et surtout, il y a un protocole qui s'est mis en place qui s'appelle le protocole Maastricht 3. Alors ça, c'est vraiment un peu les initiés qui sont censés connaître. Voilà, mais la plupart des gens ne le connaissent pas et c'est bien normal. Mais en fait, c'est un protocole qui pose de vraies questions éthiques, puisque c'est un protocole qui consiste à provoquer la mort de la personne pour lui prélever ses organes. Voilà, c'est un prélèvement d'organes sur cœur arrêté. Un prélèvement d'organes après arrêt cardiaque contrôlé. Voilà, je peux le dire comme ça aussi. Donc, dans les faits, ça se fait en France. De fait, ça se fait en France. Plutôt, du coup, quand le pronostic vital est engagé, mais il faut quand même que les organes soient de bonne qualité. Donc, bon. Voilà, c'est un protocole qui pose de grosses questions éthiques. Et avec la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, c'est sûr que là, il y a une sorte de créneau qui s'ouvre pour rendre plus courant ce type de protocole. Voilà.
Absolument.
Donc, c'est très préoccupant.
Mathieu ?
Vous parlez de la marchandisation de la vie, marchandisation de la mort. Ce qui va être, mais encore une fois, pardonnez-moi, mais c'est mon humour de romancier, enfin, c'est mon côté romancier qui dit ça, mais ce qui va être absolument admirable et très amusant, c'est qu'il va y avoir un énorme business de l'euthanasie qui va se mettre en place, puisque la mort fait peur. On va essayer de rendre le business joyeux, on mettra des petits fleurs partout, des licornes, des arcs-en-ciel, des étoiles,
d'ailleurs,
tout
vous parlez,
tout chouette, ça sera ouaté, ça sera midonné, ça sera très sympa.
Vous parlez de joyeuse euthanasie.
Mais oui.
Voilà.
On rendra ça joyeux, on rendra ça doux, on rendra ça émouvant. On va faire les émissions en disant ah, j'ai eu une super euthanasie aujourd'hui, c'était drôlement chouette. Et en fait, il y aura bel et bien, j'en suis certain, dans quelques années, pas 6 mois, mais 1 an, 2 ans, un salon de la mort accompagnée, comme je l'écris. Encore une fois, hein, ce que j'écris dans ces chroniques, comme dans mes romans, dans mon dernier roman, La conversion d'Arthur Grandin, qui est sorti en 2021 chez Herodios, où je parlais du monde numérique, où en fait tout ce que j'annonçais en 2021 se produit aujourd'hui, donc c'est rigolo. Et en fait, on va avoir vraiment un vrai business autour de ça, qui va aujourd'hui nous paraître absurde, surréaliste et ignoble, mais qui sera pavé de bons sentiments, de belles choses pour faire du fric avec mémé.
Absolument. Alors, nous allons conclure, chers auditeurs. Lucie, est-ce que vous pouvez en une minute peut-être faire un appel sur l'essentiel, sur la fondation, sur la cause, comment on peut vous aider? On l'a déjà dit tout à l'heure, mais on va encore le dire parce que nous sommes à J-8 et après il ne faut pas dire ah, je ne savais pas, je n'ai pas entendu, c'est quand la prochaine fois? Non, enfin après c'est trop tard.
Oui, tout à fait. Et bien justement à J-8, je pense, je le redis, qu'il est nécessaire de contacter à nouveau son député, le chercher à le rencontrer ou à l'appeler au téléphone sur le standard de l'Assemblée nationale pour lui demander de voter contre. On peut regarder sur le site de la Fondation Jérôme Lejeune, sur le site d'interpellation de la Fondation Jérôme Lejeune, les députés qui sont abstentionnistes pour particulièrement viser ces députés. Et puis on peut s'indigner aussi auprès du Premier ministre dont on aimerait quand même qu'il prenne la parole puisqu'il laisse faire, ou il a une sorte de complicité quand même très nette, puisque c'est lui qui a imposé le gouvernement qui a imposé le dernier mot à l'Assemblée nationale. Donc voilà, écrivez à vos députés, et si vous voulez aussi, de toute façon, il est nécessaire de parler de ce sujet autour de soi, et un bon moyen de le faire, c'est d'aller voir le film Anesthésia, qui a été réalisé par Damien Boyer et qui est au cinéma en ce moment. Mmh. C'est un film bouleversant qui permet de bien faire comprendre l'impact de l'euthanasie et du suicide assisté dans nos vies. Et donc ça, c'est un bon moyen aussi d'en parler autour de soi. Et on peut même inviter son député à aller le voir.
Merci Lucie. Alors, vous pouvez aussi vous inscrire. J'imagine qu'il y a une newsletter sur la Fondation. Vous inscrivez sur la Fondation pour recevoir des actualités.
Vous pouvez contacter la Fondation pour recevoir les actualités. Et vous abonnez aussi au site genetique.org, puisque nous couvrons tous les débats. Donc n'hésitez pas, genetique.org.
Merci Lucie. En 20 secondes, Mathieu.
En 20 secondes, c'est super. Non, en 20 secondes, moi, je dirais juste une chose très simple. Devenez bénévole en soins palliatifs. C'est aussi simple que ça. C'est magnifique, c'est bouleversant, c'est transformant. On apprend juste à tenir la main des malades. On fait pas grand chose. On dit juste, la société est là, elle vous aime, elle ne vous laisse pas seul. Et c'est un accompagnement que je fais depuis quelques mois. Je suis pas seul. Je fais ça à Jeanne Garnier, mais il y a plein d'endroits où on peut le faire. Ça change la vie et ça procure des joies ineffables.
Merci voilà. Mathieu, merci Lucie.
Merci.
Chers auditeurs, merci à la réalisation. Je vous retrouve à la rentrée pour une nouvelle émission. Et vive la France.
Vous venez d'entendre « Tout est politique » dirigé par Thomas Gabriel. Émission préenregistrée le 7 juillet 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie vendredi 24 juillet, de midi à 13h30 et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.